J'ai 50 minutes. Donc nous allons commencer par la lecture du chapitre 1er du livre d'Agé. Agé, chapitre 1. La seconde année du roi Darius, au sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Saltiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Josadac, le grand sacrificateur, disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, disant « Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de la maison de l'Éternel pour la bâtir. » Et la parole de l'Éternel vint par Agé, le prophète, disant « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée ? » Et maintenant, ainsi dit l'Éternel des armées, « Considérez bien vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, mais vous n'en avez pas assez. Vous vous vêtez, mais personne n'a chaud. Et celui qui travaille pour des gages travaille pour les mettre dans une bourse percée. Ainsi dit l'Éternel des armées, considérez bien vos voies. Montez à la montagne et apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous attendiez à beaucoup, et voici, ce n'a été que peu. Et vous l'avez apporté à la maison, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. C'est pourquoi, au-dessus de vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son produit. Et j'ai appelé une sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mou, et sur l'huile, et sur ce que le sol rapporte, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et Zorobabel, fils de Saltiel, et Joshua, fils de Josadac, le grand sacrificateur, et tout le peuple, tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple craignit l'Éternel. Et Agé, le messager de l'Éternel, parla au peuple par le message de l'Éternel, disant « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Saltiel, gouverneur du Juda, l'esprit de Joshua, fils de Josadac, le grand sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 20e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius. Le livre d'Agé comprend quatre messages. Le chapitre 1, c'est le premier message, c'est mon sujet, celui qui m'a été confié. Et le chapitre 2 contient les trois autres messages, sujet qui a été confié à David. Je disais à David, mon jeune coéquipier, j'ai le plaisir de travailler avec lui, avec un jeune frère. C'était un réel plaisir. Je lui disais, moi, mon sujet est plus difficile. Parce que le premier message, il est pratiquement tout à la conscience. Et c'est difficile de parler à la conscience des croyants. Pour deux raisons. Parce que le prédicateur, il est directement impliqué. Et la deuxième raison, c'est que, oui, ça nous est difficile de recevoir parfois l'exhortation. la voie à la conscience. On préfère encourager les croyants. C'est vrai. Mais le message est celui-là. On ne peut pas modifier. Je voudrais d'abord, je remercie Samuel d'avoir fait cette introduction quant à l'histoire d'Israël. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse particulièrement, nous chrétiens, de 2015, c'est la transposition à l'Église du Seigneur, à l'Assemblée du Dieu vivant. Et d'autant plus qu'en 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour nous chrétiens, pour nous servir d'avertissement et d'instruction, et de choses. Donc, c'est important qu'on fasse la transposition, Samuel l'a déjà un tout petit peu fait. Et je vais faire un croquis, moi, avec des moyens un petit peu plus archaïques. Je vais tourner mon tableau. Non, mais c'est très léger. Je vais faire un petit peu ce que Samuel a fait, mais sous forme de croquis pour vous faire comprendre. Donc, ici, on commence par les règnes de Salomon, de David et Salomon. Et à partir de Salomon, l'état du peuple a commencé par Salomon, dégringole. C'est la descente. Même s'il y a des rois de Juda, je ne parle que de Juda. Il y a des rois de Juda qui, par leur piété, ralentissent la descente, mais c'est la descente. C'est la descente jusqu'à l'exil. Et c'est ce qu'on a appelé de la gloire à l'exil. 70 ans de captivité. Et le premier retour sous Zorobabel, sous Esdras, sous Néhémie. Il y a un vrai réveil, mais comme l'a bien dit Samuel, ça n'atteint pas la gloire de Salomon. On le vérifierait par le nombre de sacrifices offerts sous Esdras, c'est minime par rapport au temps de Salomon. Et puis là, après Néhémie, on a une lente descente jusqu'à Malachie. La Malachie, le procès du formalisme. Et là, la venue du Seigneur malgré tout, mais il y a aussi ici ceux qui gardent les acquis, alors là c'est l'ensemble du peuple, là. Et ici ceux qui gardent les acquis, les deux ou trois qui parlent l'un à l'autre, et qui seront là au début de Luc. Alors maintenant, essayons de faire le parallèle avec l'histoire de l'Église. Je ne parle pas de temps, je parle d'état moral. La période glorieuse de l'Église, c'est quoi? C'est où? Eh bien, au temps des apôtres. Ici, au temps des apôtres, ça a duré le temps de la vie des apôtres, mais après, je le situerai jusqu'en 314, jusqu'à Constantin. C'est l'église des persécutions, c'est l'église des catacombes, c'est l'église dont le sang est la semence de l'église, et jusqu'en 64, persécution juive, de 64 à 314, persécution par les empereurs romains. Et là, après cette période glorieuse de Éphèse, Smyrne, là, c'est de nouveau la descente. Et c'est tout le temps du Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelait la captivité babylonienne chrétienne. Jusque-là. Jusqu'au XVIe siècle, ici, là. Bon, bien sûr, il y a eu des petits réveils au XIVe siècle. Wycliffe, dont on a dit que c'était l'étoile du matin de la Réforme. L'étoile du matin de la Réforme. Jean Hus, Savonarole. Mais de toute façon, ça n'a pas changé la descente. On s'est éloigné de plus en plus. Selon la célèbre formule à Pergame, j'ai cherché le monde et je l'ai trouvé dans l'Église. J'ai cherché l'Église et je l'ai trouvé dans le monde. Pergame, Thyatire. Mais là, au XVIe siècle, un peu comme ici, il y a eu un réveil. Le réveil de la Réformation. Ensuite, au XIXe siècle, le grand réveil qui a donné encore des acquis. Et puis là, où est-ce qu'on se situe maintenant? Thyatire continue ici. Sardes descend. Ici, on se situe ici, Philadelphie, on se demande si elle ne descend pas là aussi vers l'Odyssée, mais ici, Philadelphie continue très légèrement ici. On voudrait en faire partie de celle-là. Il y a aussi quelques-uns qui sont à Thyatire, ceux-là ils montent. À Sardes aussi quelques-uns. Et là, tout se retrouve, le retour de Jésus-Christ. Et alors, on se situe quelque part, par ici, mais on se demande si on est là ou là. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on verra dans les années futures. Si, alors qu'on avance vers le retour. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, nos intérêts et ceux de Jésus-Christ. Il faut que je parle un tout petit peu de ces maisons lambrissées. Ça, c'est nos intérêts et ceux de Jésus-Christ, la maison de Dieu. Les maisons lambrissées, la maison. Je n'ai pas trouvé dans le Nouveau Testament de verset plus subjectif que dans les Philippiens, quand Paul dit « Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ ». Mais il faut que je parle un petit peu de ces maisons lambrissées, parce que ça a toujours posé des questions parmi nous, et même des problèmes. Moi, je n'en ai pas trop le souvenir, mais mon épouse se souvient bien que les frères qui enseignaient à l'époque culpabilisaient passablement les croyants avec cette histoire de maison lambrissée. C'est vrai qu'il y a 40 ans, 50 ans, l'habitat des croyants n'était pas homogène comme maintenant. Et c'est pour ça que ça posait des problèmes, ce verset, maison lambrissée. Si vous aviez vu les habitats de nos campagnes et dans les fermes, et puis les habitats des amis qui étaient en ville, c'est pas pareil. Il y avait une très grande différence. J'ai peut-être le temps de vous raconter une petite histoire authentique. C'était à peu près en 1900, sur le plateau de notre plateau, que la plupart du temps, la plupart des amis connaissent ici, il y avait un frère très remarquable qui s'appelait Jérôme Lebras, qui habitait à Palier, près du Chambon-sur-Lignon. Et dans une ferme, et si vous aviez vu son intérieur tellement rustique, tellement noirci par le temps. Et ce frère très doué a été invité par Henri Rossier aux études à Vevey en Suisse. Et Henri Rossier, médecin, l'a reçu dans son bel intérieur et lui a dit, frère, asseyez-vous dans ce canapé. Et Jérôme Lebras a dit, non, c'est trop mondain. Je ne sais pas comment Henri Rossier s'en est sorti, je n'ai pas entendu la fin de l'histoire, mais vous voyez le choc. Et pourtant Henri Rossier, c'était un frère pieux. Deux frères pieux. Et voilà. Et donc, il faut dire un petit mot à propos de nos maisons lambrissées. Je pense que nous avons tous ici des maisons confortables, très confortables. Je suis prudent aussi, parce que s'il y avait un frère SDF ici, c'est possible aussi, hein. Tout le monde n'a pas notre niveau de vie, hein. Eh bien, comment nous devons considérer nos maisons confortables? Avec une profonde reconnaissance. Et puis aussi, quand on élève une famille, c'est un outil de travail, c'est pas de la fantaisie, c'est pas du luxe d'avoir une maison confortable, c'est pas non plus du luxe quand on est dans un pays froid d'avoir une maison bien isolée. Mais c'est vrai que aussi, il y a ce qu'on a appelé la tyrannie de la civilisation du confort. C'est vrai. Toujours plus, il nous faut échapper à ça. Parce que nous avons une maison éternelle dans les cieux. Alors vous voyez, on est sur un équilibre fragile. Et là, je parle franc. Je parle vrai. Tout le monde n'a pas dans ce monde, et même en France, des maisons confortables comme nous avons. Nous devons remercier le Seigneur pour nos maisons confortables et bien chauffées au demi-degré. Parce qu'il y en a qui souffrent autour de nous. Alors au moins soyons reconnaissants. Mais ce qui est ici, ce que le prophète Agé dénonce, c'est que ils ont des maisons confortables et l'Assemblée de Dieu est démolie et dévastée. Ils se concentrent sur leurs intérêts. Et nous sommes un peu, là encore il faut parler franc, nous sommes un peu tiraillés parfois entre nos intérêts à la maison, nos petites affaires, et puis l'Assemblée de Dieu. Il n'y a pas longtemps encore, mais je pense que c'est l'affaire de tous. On a des choses à faire à la maison, matérielles. Oui, c'est vrai qu'on peut tout faire pour le Seigneur, oui, mais ça ne résout pas toute la question. Il y a quand même nos intérêts et ceux de Jésus-Christ. On était pressés, enfin, il y a des choses à faire dans la maison. Mais voilà, il y a un frère qui a perdu sa mère, il faut aller le visiter, ce frère. Eh bien, on abandonne tout, il faut savoir abandonner nos petites affaires pour aller faire une visite à l'hôpital ou dans une maison. Je pense qu'on est tous confrontés à ça. Il y a un choix à faire, il y a des priorités. Notre maison, elle peut peut-être attendre. Et pour une distribution, par exemple, pour, je ne sais pas, quelque chose qui touche l'Assemblée locale, un aménagement dans l'Assemblée locale, même matériel, parce que nous avons des maisons très confortables, voire luxueuses, mais on n'imagine pas que le local de la Réunion, mais matériellement, il y a des pans de tapisserie qui pendent, il y a des taches dans les murs. Non, nous avons des locaux confortables aussi. Mais là, c'est beaucoup plus aussi moral. Il y a les soins donnés aux frères et sœurs. Et il y a souvent encore, je le dis encore une fois, une confrontation entre les deux. Nous avons des choix à faire. Et là, ils couraient à leur maison, comme le dit Agé, et ils délaissaient la maison de Dieu. Ce qui nous permet de nous concentrer sur la maison de Dieu, sur l'assemblée de Dieu, je crois que c'est le prix qu'elle a pour le Seigneur Jésus. Et chaque croyant fait partie de l'assemblée de Dieu. Je ne peux pas en exclure un. Le plus faible, le plus petit, c'est pas ceux qui ont des dons, c'est pas ceux qui sont en vue. Il faut que je m'occupe de cette âme qui est dans la peine ou dans la difficulté. Je lui passe un mail. C'est s'occuper de la maison de Dieu. C'est des fois des petites choses, des petites attentions, comment les personnes qui souffrent sont attentives aux petits égards, aux petites choses. C'est ça construire, c'est ça apporter des matériaux. On pense à des choses immenses, des grandes missions. Non, non, non. Pas d'abord. Bon, il faut réfléchir à ça. Et l'apôtre Paul est vraiment triste dans les Philippiens quand il dit « Mais personne, je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour penser à vous. Pour... » Tous cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'appelle dans le monde les intérêts de Jésus-Christ. Je ne sais pas toujours les définir. Il faut que je sois attentif pour savoir ce que ça veut dire pour moi. Chacun a une mission aussi particulière. Je peux pas faire ce que mon frère fait. C'est d'ailleurs Henri Rossier qui disait « Mon frère est ce qui me manque ». On ne peut pas fonctionner tout seul. C'est pas possible. Ce qu'il prétendrait, ça serait un orgueil monstre. Ils ont besoin les uns des autres dans l'assemblée de Dieu. Alors, le troisième point. Ce qui, dans l'Église locale, peut retenir la bénédiction divine et quelle est la voie du réveil. Moi, ce chapitre, n'attendez pas de moi que je fasse une étude, vraiment, de ce chapitre. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un message. Parce que les études, bon, il vaut mieux aller regarder sur une étude écrite. On aura tous les détails. Mais le message, c'est autre chose. Et ce qui m'a interpellé fortement, c'est ce verset 10. C'est pourquoi au-dessus de vous, les cieux ont été retenus. Ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. Et j'ai appelé une sécheresse sur la terre. Alors, en Israël, c'était quand la bénédiction était retenue, c'était la pluie. Parce que ceux qui sont allés dans les pays du Moyen-Orient savent bien que s'il n'y a pas la pluie, c'est sec, il n'y a rien qui pousse. C'est la catastrophe. Et si on ouvre le chapitre 28 du Deutéronome, on voit que la bénédiction, Dieu a porté la pluie, et la malédiction, il retenait la pluie, et c'était la catastrophe. On mourait de faim, on meurt de faim dans ces pays s'il n'y a pas la pluie. Hein. On s'en rend pas compte ici. Un petit peu quand il fait sec, mais c'est rien, la sécheresse ici. Mais pour nous, frères et sœurs, si dans notre assemblée locale, la bénédiction est retenue, la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit, si elle est retenue, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose. Une coquille vide. La chose est sérieuse. Donc le prophète parle sérieusement. Et on veut écouter. Mais je voudrais prier un instant. Seigneur, tu veux parler à nos consciences. Et c'est difficile de recevoir ce qui est pour la conscience. Mais c'est parce que c'est toi, Seigneur, que nous voulons écouter. Amen. Alors, une église où la bénédiction est retenue, j'ai pas trouvé autre chose que deux églises, Corinthe et Laodicée. Alors, je vais survoler l'épître aux Corinthiens pour essayer de voir ensemble ce qui, dans l'église locale, peut retenir la bénédiction, parce que c'est ça le sujet. Et ce qui, sous la plume de Paul aussi, peut amener le réveil. Jean-Philippe l'a dit un peu hier soir, le réveil, c'est on reprend conscience des merveilles qui nous entourent et on reprend conscience des dangers. Parce que celui qui celui qui dort, il n'est pas conscient, il n'a pas conscience de la beauté de ce qui l'entoure, du paysage par exemple, mais il n'a pas conscience qu'il y a un voleur qui rentre dans la maison non plus. Hein. Donc deux choses, quand on dort et quand on se réveille, on retrouve ces deux choses. Et dans l'assemblée à Corinthe, il y avait des choses qui retenaient la bénédiction. Je pense que vous serez tous d'accord avec cette pensée-là. Et à l'Odyssée, pareil. Mais Paul, dans la première épître aux Corinthiens, ne fait pas que dénoncer, parce que dénoncer, ça suffit pas. Il annonce le remède, il annonce le réveil. D'ailleurs, au chapitre 15, il dit « Réveillez-vous pour vivre justement ». Ou qu'ils se réveillent de tous leurs égarements, les Corinthiens. Alors la première chose qui retient la bénédiction à Corinthe, je crois que c'est au chapitre 1er, c'est les divisions internes. Il dit que vous êtes divisés. Alors les uns disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Alors un jour j'ai imaginé 4 Corinthiens qui discutent. Le premier qui dit aux autres, il dit, vous rendez compte, moi je suis vraiment de Paul. Si vous saviez, Paul, il a une érudition extraordinaire, il a fait ses études à Jérusalem au pied de Gamaliel. C'est pas n'importe qui, Paul. Puis il a eu une rencontre avec le Seigneur magistrale sur le chemin de Damas. Et l'autre qui lui dit, non, tu as rien compris. C'est Céphas, c'est Pierre. Moi, je suis de Pierre. Penses-tu, c'est lui seul qui a vu le Seigneur. Il a cheminé pendant 3 ans et demi. D'accord. Il est très du commun, mais il a vu le Seigneur. Il a passé du temps avec lui. Un troisième arrive. Non, mais vous y comprenez rien, les frères. Moi, je suis d'Apollos. Vous avez vu l'éloquence d'Apollos? Comment il est puissant dans les Écritures? Les deux autres, Paul, il a la parole qui n'est pas facile. Apollos, c'est bien supérieur. C'est un orateur, Apollos. Moi, je suis d'Apollos. Un quatrième arrive, dit non. Vous êtes tous à côté de la plaque, mes amis. Moi, je suis de Christ. Moi, j'ai pas besoin des dons. J'ai Christ. Ben, ils ont tous faux. Ils ont tous faux. Même le quatrième a faux. Et c'est ainsi que on s'enflamme, et ça on le voit encore aujourd'hui, on s'enflamme pour un prédicateur. Et ça c'est très dangereux. Ça. Et ça c'est un verset que j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps, au chapitre 4. Vous ne vous enfliez l'un contre l'autre? Non, pour l'un contre l'autre. Chapitre 4, verset 6. Quand on s'enflamme pour un prédicateur, c'est généralement, pour pas dire toujours, contre un autre. Voilà, ça se passe dans l'Église. Ça se passe dans l'Église. Au chapitre... Et donc, Paul... j'ai pas dit encore le remède de Paul au chapitre 3. Il remet les pendules à l'heure. Il dit... chapitre 3, verset 3... Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des querelles, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas à la manière des hommes? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes charnels, sous-entendu? Qui donc est Apollos? Et qui est Paul? Des serviteurs, par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux, moi j'ai planté, à Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement, de sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose sont un. Pourquoi les séparer? Ils sont un. Car chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vous voyez, il remet les choses en place, Paul. C'est pas la peine de nous emporter l'un contre l'autre. Bien sûr, peut-être qu'on a reçu davantage par ce frère. Oui, mais l'autre, on a besoin de l'autre aussi, l'autre prédicateur. On a besoin de tous. Il ne faut pas qu'il y ait des failles dans l'Église, parce que sinon, ça retient la bénédiction, au moins en partie. Au chapitre Un peu plus loin, au chapitre 5, c'était un mal moral. C'était outrancé, même. Un homme avait des relations avec sa mère. Et ça, c'est le mal moral. Et Paul leur dit, mais enfin, vous auriez dû mener deuil par rapport à cette chose et cette énormité. Et ils auraient dû ôter cet homme du milieu d'eux. Alors ça, c'est la discipline dans l'Église. Si on n'applique pas la discipline dans l'Église, eh bien, la bénédiction est retenue. Moi, ça, j'en suis sûr. C'est difficile, la discipline dans l'Église. Il faut le faire aussi comme il faut. Il faut mener deuil. Je me souviens d'une sœur dans une assemblée où on avait dû exclure un frère. Elle est sortie d'une réunion en pleurs et elle a dit « On était obligés de faire ça. » Il faut le dire en pleurs, ça. Et pas dire « Bon débarras. » Ah non. Et les Corinthiens, qui était charnel, de toute façon, quand on est charnel, tout va de travers dans une église. Tout. Mais Paul redresse. Il dit, voilà, vous devez mener deuil, vous devez exclure ce frère. Et une exclusion, c'est pas définitif. On a dit qu'une exclusion, c'était la dernière, c'était le constat d'un échec du service sacerdotal. Et il faut que le service sacerdotal précède. On exclut quelqu'un qui ne veut pas se repentir d'un péché. Et on n'a plus que ça. Et on le fait dans les larmes. Mais il faut le faire. Pas d'une façon définitive. Et on voit dans la deuxième épître, il y a un travail de Dieu dans cette personne, et il fallait qu'ils ratifient leur amour. Mais si on ne fait pas correctement tout ça, dans l'Église, ou si on est laxiste, on laisse tout passer. Eh bien, moi, je suis sûr que la bénédiction, en partie au moins, est retenue. Mais il y a la voie du réveil. Et Paul est toujours positif. D'ailleurs, dans la première épître aux Corinthiens, est toute corrective. Il annonce, il dénonce, oui, mais il annonce. Il est positif, Paul. Nous, le chrétien individuellement, une assemblée, n'est jamais dans un cul-de-sac. Non, il y a toujours la voie du retour, du réveil. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Au chapitre 5, il y avait encore des problèmes, il y en a partout dans cette assemblée. Il y a comme une accumulation parce que, justement, ça nous sert maintenant. Il y avait des procès entre frères et qui allaient jusque dans les tribunaux humains. Donc, c'est dans ce chapitre, si on l'étudie avec soin, il y a trois groupes de personnes. Donc il y a celui qui est victime de l'injustice. Paul dit qu'il faut qu'il supporte l'injustice, qu'il supporte le tort. Verset 7. Ah, une injustice, c'est pas facile à supporter. S'il y a quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, c'est bien une injustice. Et d'autant plus si c'est des personnes proches de nous, si c'est des frères. Mais il faut supporter. Il faut pas aller sur un tribunal humain. Il faut aller au tribunal divin. Quand dans notre France à l'heure actuelle, si quelqu'un pense qu'il est victime d'une injustice, même par rapport à un tribunal inférieur, il fait appel. Il fait appel à un tribunal supérieur, et le dernier, la plus haute juridiction en France, c'est la Cour de cassation. Et aux États-Unis, c'est la Cour suprême. Eh bien, quand on est victime d'une injustice, il ne faut pas aller devant un tribunal humain, mais il faut faire appel à la Cour suprême. Vous savez où elle est, la Cour suprême? 1 Pierre 2. Quand il souffrait, ne menaçait pas, mais s'en remettez à celui qui juge justement. Nous ne ferons pas mieux que notre maître, mais nous pouvons faire comme lui. Celui qui juge justement, c'est ce que j'appelle la Cour suprême. Ça, c'est le côté de celui qui est victime. Maintenant, Il parle aussi très sérieusement à ceux qui commettent une injustice à Corinthe. Il dit, vous n'hériterez pas. Il va jusqu'à dire, ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous faites des injustices à vos frères. Et troisièmement, est-ce que tout le monde dans l'Église voit une injustice et ne bouge pas? Et il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un, un homme sage, pour décider entre ses frères? Mais que c'est triste dans une assemblée s'il n'y a pas d'homme sage pour décider. Est-ce que l'assemblée de Dieu serait l'endroit où il y aurait des injustices qui se commettraient et que personne ne bouge? Ah non, Paul donne une voix aussi. Il y a un homme sage qui décide entre ses frères. Et s'il y a des procès, s'il y a des injustices dans l'Église, vous croyez que la bénédiction ne peut pas être retenue? Moi, je le crois. Mais il y a toujours une voie. On a dit que l'assemblée de Dieu était la forme que prend le royaume en l'absence du roi. Et vous savez que les trois éléments du royaume, dans tous les temps, c'est justice, paix et joie. Et qu'il n'y a pas de paix sans justice, on l'a vu il y a quelques années à La Rochelle. Et si il faut des choses justes dans l'Église, c'est la première loi du royaume. À la fin du chapitre 6, on a Paul, il dénonce pas, mais il met en garde les Corinthiens contre la fornication. La fornication qui peut être commise dans l'Église, elle va retenir la bénédiction. Faut pas qu'on se fasse des illusions. Hein. Et on est entouré comme à Corinthe de ce péché. Les gens autour de nous commettent la fornication à tout va. Hein. Et ça a une influence dans l'Église. Mais si nous tombons dans ce péché, et nous sommes tous vulnérables, si nous tombons dans ce péché, il faut bien que ça savoir que la bénédiction dans l'Église peut être retenue. Mais quelle est la parade de Paul à la fornication? Bien, il dit au chapitre 7, c'est l'harmonie dans le couple. Nous devons chacun travailler à l'harmonie dans notre couple, parce que notre couple et l'assemblée de Dieu, ce sont, on l'a dit, des vases communicants. Et je dis travailler l'harmonie dans notre couple parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a bientôt 40 ans qu'on y travaille, on n'a pas fini. Il y en a qui en ont beaucoup plus. Et les jeunes aussi, qui commencent. Il y a des jeunes qui nous disaient récemment, bon, ils sont mariés depuis pas longtemps, ils nous disaient, on n'arrête pas de se disputer. Eh bien, il faut travailler l'harmonie. Et ça fait mal d'entendre ça. Et c'est ce que Paul dit là. C'est une sauvegarde pour des péchés plus graves. Chapitre 8 et 9, je passe. Quoique au chapitre 9 aussi, il y a un problème d'argent avec les Corinthiens. Et j'en reparlerai dans la deuxième. Au chapitre 10... c'est la communion. Paul dénonce une pratique à Corinthe. Ils mangeaient la scène à la table du Seigneur et ils mangeaient des sacrifices à la table des démons. Et Paul leur dit non, vous ne pouvez pas faire les deux. Et je sais que nos frères qui nous ont précédés ont passablement extrapolé ce passage d'un Corinthien 10. C'est vrai. Mais sans le faire autant qu'ils l'ont fait, il faut bien avouer que nous ne pouvons pas aller à des tables de culte où il y a des éléments d'idolâtrie. C'est encore vrai aujourd'hui. Quand on adore Marie ou on prie Marie, on ne peut pas s'associer à cette table de culte. Ah non. Non, non. Ce sont des éléments d'idolâtrie. C'est sérieux. Et Paul les avertit. Donc si nous associons l'assemblée de Dieu à des éléments d'idolâtrie, la bénédiction sera retenue aussi. Et il y a toujours la voie du réveil, une reprise de conscience des choses et une ligne directrice pour changer. Au chapitre 11, Paul dénonce encore une déviation. Il mélangeait la scène avec leurs agapes. Il ne distinguait pas le corps. Bon, nous, on a des repas à la maison. Il va y avoir un repas tout à l'heure. On ne va pas prendre la scène. Pourtant, il y a du pain et du vin. Il y a des moments définis, et à une place définie, où le pain et le vin ont une valeur symbolique. Et sinon, c'est du pain et du vin, nous en mangeons tous les jours, nous buvons tous les jours. Donc il ne faut pas mélanger, ils avaient mélangé leurs agapes à la scène. Donc Paul dit, non, ça ne va pas. Donc ça aussi, parce que il faut prendre la scène sérieusement. Et c'est pour ça qu'il leur dit dans ce chapitre qu'ils se jugent et qu'ils prennent. Là aussi, il y a toujours la voie du réveil. On a pratiqué des éléments qui retiennent la bénédiction, mais on peut corriger. Comme un bateau qui va pas dans le bon sens et le capitaine il corrige la trajectoire. Chapitre 14, il y a les dons. Là aussi, il y avait des déviations. Dans la première épître aux Corinthiens, de toute façon, toute l'épître est corrective. Mais dans un sens, c'est bien parce que ça nous instruit. Ils employaient les dons pour se prévaloir, pour s'enfler d'orgueil. Mais un don, c'est pas pour être sur un piédestal au-dessus de ses frères. Ah non? C'est pour les servir. Vous, vous êtes grand. Moi, je suis petit. Ben, c'est ce que le Seigneur a dit. Qui est le plus grand? Celui qui a table ou celui qui sert? Mais évidemment, celui qui a table. Vous êtes à table, moi je vous sers. Moi, c'est moi le petit. Et donc, les Corinthiens, ils avaient tout mélangé. Et puis, il est comme... quand on est charnel, tout se brouille. Même l'exercice d'un don. Et peut-être d'autant plus. Ils aimaient bien les dons spectaculaires. Les dons de guérison, les dons de langue. Oui, si je vous parlais dans une autre langue, ça serait impressionnant. Hein. Si je pouvais guérir quelqu'un spontanément, ben, j'aurais une aura. Ben oui, mais c'est pas ça le maniement d'un don. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire du serviteur. Sinon, il a rien compris. Et les Corinthiens, ils avaient rien compris. Enfin, ils étaient charnels. Et donc, Paul redresse tout ça. Il leur dit ce qu'est vraiment des dons. Et au chapitre 15, alors c'est un mal doctrinal. Au chapitre 5, c'était un mal moral. Au chapitre 15, c'est un mal doctrinal. Quelques-uns à Corinthe, pas tous. Quelques-uns à Corinthe disaient qu'il n'y avait pas de résurrection de corps. Ah, mais attention, dit Paul, hein. Parce que s'il n'y a pas de résurrection de corps, Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés, tous nos bien-aimés qui sont dans la tombe ont péri. C'est comme des dominos, hein. Si le premier tombe, il fait tomber tous les autres. Hein. Et donc, dans ce chapitre 15 aussi, Paul dénonce, mais il annonce. Et c'est ce grand chapitre de la résurrection. Et dans l'Église, on connaît ça. Il faut prendre conscience de ça, c'est le réveil. Et la fin de la première épître correspond un petit peu à la fin du message d'Agé, à la fin du chapitre 1. Il les encourage. Il dit Dieu est avec vous, parce qu'ils sont sur la voie du retour. Comme ici à Corinthe, ils sont sur la voie du retour, et Paul les encourage, comme Agé encourage. Veillez, tenez ferme dans le bien, soyez hommes, affermissez-vous. que toutes choses parmi vous se fassent dans l'amour. On voit le ton a changé un petit peu. Il est moins percutant. Il les encourage. Comme j'ai à la fin de mon chapitre. Et pourtant, à Corinthe, tout n'était pas encore rectifié. Peut-être dans le résidu au temps d'Agé non plus. Mais enfin, il faut toujours reconnaître ce qui a été redressé dans une église. Mais il y a encore des choses à redresser. La preuve en est dans la deuxième épître. Il y a encore des choses que Paul montre. Quoique le ton a changé dans la deuxième épître. Même il y a un passage assez étonnant où il se demande s'il a bien fait d'écrire ce qu'il a écrit, tellement c'était percutant. Et pourtant c'est inspiré, mais l'amour de Paul était comme l'amour d'un père qui a dû frapper son fils qu'il méritait, mais après il s'est dit, mais est-ce que j'ai bien fait? C'est ça l'amour aussi. On ne se résout pas à dire des paroles percutantes à la conscience. C'est difficile. Et dans la seconde épître, au chapitre 12, où est-ce que c'est ? Au chapitre 11, il parle encore de cette question d'argent. Parce que si on lit la première épître aux Corinthiens et la deuxième épître aux Corinthiens un petit peu à la file, on est très étonné de voir comment les questions d'argent tiennent une grande place dans les débats de Paul avec les Corinthiens. Il y a vraiment des longueurs. Et pourquoi ça? Mais parce que, vous savez, l'argent gouverne le monde, l'amour de l'argent gouverne le monde, et l'argent a fait un dégât épouvantable dans l'Église. Et je me demande si ce n'est pas encore le cas. Notre rapport à l'argent. Il faut que nous y veillons comme nous veillons au feu. Par exemple, au chapitre 11, on entrevoit que Paul a des débats avec les Corinthiens. Au verset 7, « Ai-je commis une faute en m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés parce que je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres assemblées en recevant un salaire pour vous servir et me trouvant auprès de vous et dans le besoin, je n'ai été à charge à personne car des frères venus de Macédoine ont suppléé à mes besoins et je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » Tout ça c'est sur l'argent. Et Paul ne voulait rien recevoir, aucun don matériel des Corinthiens. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui s'en prévalaient, on le voit dans le chapitre, ils voulaient rien recevoir des Corinthiens parce qu'il y avait des faux frères, des faux apôtres, et ils voulaient leur retrancher une occasion de dire, ah, Paul, il vit au crochet des Corinthiens. Ça, ils voulaient pas qu'on dise ça. Et j'ai dépouillé d'autres assemblées, c'est-à-dire d'autres assemblées m'ont donné plus qu'elles ne pouvaient. Et puis il dit aussi, mais l'ouvrier est digne de son salaire. Celui qui annonce l'évangile, il peut vivre de l'évangile. Il remet les choses à plat. Mais avec les Corinthiens, il a eu des problèmes à propos de l'argent. Je me demande si ce n'est pas encore le cas dans l'Église, quelquefois. Il y a un frère de notre région qui est artisan. Je dirais pas pour discrétion qu'est-ce qu'il fait. Mais il travaille beaucoup pour des chrétiens. Et il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, tu sais, on ne connaît pas les chrétiens avant d'avoir eu affaire à eux pour des questions d'argent. Une petite phrase. Mais je vois ce qu'il veut dire. La note d'un artisan, c'est des fois époustouflant. Hein, ça nous surprend. Oui, mais parce que l'artisan, il a des ouvriers, il faut qu'il les paye. C'est pour ça que la note est très élevée. Oui, mais avec mon argent, tu as vu le 4x4 qui se paye? Et il fait des voyages à n'en plus finir. Mais ça me regarde en quoi, ça? L'emploi de son argent, ça me regarde. Ça me regarde pas. Et puis moi, je peux bien être jugé par l'emploi de l'argent que je gagne ou que je reçois. Parce qu'attention, de la mesure dont on mesure, on est mesuré en retour. Si on passe son temps dans l'église à se jalouser, vous croyez que la bénédiction est pas retenue? Où ça se passe, ça? Dans le monde? Non, dans l'église. On a des choses à juger. Il faut faire attention à la jalousie. Bien sûr qu'il y a des croyants plus aisés que d'autres, mais est-ce que je vais jalouser ceux qui en ont plus? Parce que il y en a qui en ont moins que moi. Il y a toujours des gens qui sont plus pauvres que soi. Mais ça, on n'en parle pas dans l'Église. Ça, c'est souterrain, vous savez. La jalousie, c'est souterrain. Mais ça peut faire un dégât épouvantable. Il y a au moins trois passages dans les Épîtres où la jalousie et les querelles sont côte à côte. Dans Jacques, on en a lu hier soir un verset. Ça, c'est frappant, ça. La jalousie et les querelles. Dans l'Église? Dans l'Église. Et on peut juger aussi quelqu'un qui reçoit des dons. Qu'est-ce qu'il en fait? Ben non. On donne et on laisse la responsabilité aux serviteurs. On a à réfléchir à tout ça. Devant le Seigneur, dans le secret. Vous allez peut-être me dire toutes ces sombres choses que Paul dénonce pour les Corinthiens, ça c'est pas dans mon assemblée. Ah, Dieu soit béni. Ah, je m'en réjouis. Mais qui pourrait dire que son assemblée est à l'abri? Si c'est écrit dans la première épître aux Corinthiens? La chose est sérieuse. Et le Seigneur nous parle et me parle. Que je ne fasse rien qui retienne la bénédiction, mais au contraire, qui la favorise. Peut-être qu'il faudrait qu'on ressorte ce vieux traité. Suis-je une aide ou une entrave? Dans l'Église. Et puis on voit à la fin du chapitre 12 qu'il y avait encore pas mal de choses, pas mal de difficultés à Corinthe. Alors chapitre 12 verset 20, il y a des querelles, des jalousies, voilà, c'est un passage, hein, où la querelle et la jalousie sont à côté, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations, des enflures d'orgueil, des désordres, 8 choses. Des médisances. Combien la médisance peut retenir la bénédiction? Dans l'Église. Ça peut faire un dégât épouvantable, la médisance. Ça peut mettre à bas une assemblée locale, la médisance. D'une famille à l'autre. Par téléphone. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons de l'Église locale devant nos enfants? Il y a un grave problème qui se pose en ce moment, c'est peut-être le départ des jeunes. On en parle beaucoup, oui, mais c'est complexe, les raisons sont très diverses. Mais il y a aussi une raison. Comment on a parlé de l'assemblée locale devant nos jeunes, toutes les années passées? Si on parle mal, si les parents parlent mal de l'église locale, c'est pas étonnant si les enfants s'en vont. Mais oui, mais ce frère, il est pénible. Si tu savais à la maison ce qu'il supporte. Et puis il est âgé. Tu vois, quand tu seras âgé, toi, tu seras peut-être comme lui. Il y a des moyens d'atténuer les choses. Et puis tu sais, si tu vas dans une autre église, il y aura aussi des choses à supporter dans cette église. Il y a toujours des choses à supporter dans toutes les églises. Les jeunes se font des idéaux d'église. Mais non, tant qu'on est sur la terre, tant qu'on est des hommes et des femmes ayant la chair en nous, il y a toujours des choses à supporter. L'église idéale, ce sera dans le ciel. il n'y aura plus de difficultés. Et un mot en terminant de l'assemblée de Laodicée, beaucoup de choses qui retenaient la bénédiction du Seigneur. Même il était à la porte. Pourquoi? Pourquoi il était à la porte? Parce que on avait une prétention monstrueuse, l'orgueil. Je n'ai besoin de rien. Aucun don. On n'a pas besoin d'aucun don à Laodicée. Les dons du Seigneur. On a besoin de... Même pas du Seigneur, il est à la porte. Et on ne s'en soucie pas. On continue gentiment sans le Seigneur. On est dur à Laodicée. C'est pour ça que le Seigneur conseille un collier. Notre cher frère regretté, Pierre-Étienne Fusier, disait, vous savez ce que c'est qu'un collier ? C'est une larme à l'envers. On ne verse pas des larmes à Laodicée. On est dur. On aime avoir des larmes au culte. Et dans d'autres moments aussi. On a de la sensibilité. Si on n'en a pas, c'est grave. Si on n'est pas touché, quelque part. Mais je termine par une note positive. Philadelphie, c'est pas ça. La bénédiction n'est pas retenue à Philadelphie. Pourquoi? Et parce que le Seigneur remplit tout. Remplit tout de sa présence. 5 choses. Ma parole, tu as gardé ma parole, dit Jésus. Tu n'as pas renié mon nom. Ma patience. J'en oublie un. Mon amour, ils connaîtront que toi tu m'as aimé, ma patience, ma venue, je répète, ma parole, mon nom, mon amour, ma patience, ma venue. Mais le Seigneur Jésus remplit tout dans cette assemblée qui fait bon y aller parce qu'on s'aime, on aime Jésus. La bénédiction n'est pas retenue. Au contraire, on est réveillé. Mais on ne se regarde pas les uns les autres. On ne regarde pas les dons. Tous les regards sont tournés vers le Seigneur. Il est le centre, il remplit tout l'espace. C'est merveilleux cette assemblée. Que le Seigneur nous aide à tendre vers la réalisation de cette assemblée. Non pas prétendre l'être, mais tendre, c'est un peu ma formule, tendre sans prétendre. La bénédiction de Dieu. Oh, si elle ne pouvait être parmi nous, non retenue dans nos assemblées locales, mais au contraire, que nous soyons réveillés, que nous voyons les choses admirables qui sont autour de nous et surtout le Seigneur Jésus, et que nous voyons aussi, nous discernions aussi les dangers de choses. Que le Seigneur bénisse ce petit message que j'avais sur le cœur.